Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. Cette émission cartonne en podcast. Un demi-million le mois dernier, au mois de mars. Donc n'hésitez pas à aller nous réécouter. Je sais que vous en avez pris l'habitude. Nous avons évoqué le match de l'Olympique de Marseille. Encore une défaite face à un gros. L'OM 7e ce matin de Ligue 1. Peut-être 9e à l'issue de cette journée. Est-ce une honte? C'était la question que nous nous sommes posés à 9h30, à 10h. Est-ce avant tout la faute des coureurs? Nous avons évidemment parlé de cyclisme avec un énorme coup de gueule de Marc Madio, donc vous pouvez aussi nous réécouter, et puis Luis Enrique aussi avant le match face au FC Barcelone. Toujours avec Marc Madio, David Douillet, Christophe Cessieux, Denis Charvet dans quelques instants. Le Tour de France, largement impacté par ces chutes à répétition, la grande boucle est-elle totalement relancée? Ce sera notre débat. 11h30, les débats cachés. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et puis 11h45, les GG contre-attaquent. Mais GG, cette saison, vous pouvez prendre les commandes de cette émission, vous le savez, en nous proposant un débat. Allez, 20 secondes pour nous vendre votre meilleur débat, ce qui vous tient à cœur, un vote, évidemment. Votre débat sera soumis au vote et le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 11h45. Christophe Cessieux, c'est quoi aujourd'hui ?
Je voulais vous raconter une histoire triste ce matin. Alors, on me dirait que c'est peut-être pas l'endroit ni le lieu. Celle d'un lutteur français qui ne verra pas les Jeux de Paris à cause d'un règlement impitoyable, qui n'a pas voulu entendre que ce garçon avait peur de se rendre dans un tournoi de qualification olympique qui se déroule ce week-end à Bakou en Azerbaïdjan. Tout cela parce qu'il est arménien d'origine et que ses parents avaient la trouille qu'il lui arrive malheur s'il se rendait là-bas. La Fédération française de lutte lui a proposé de lui mettre un garde du corps au tout, mais il n'a pas voulu. On rappelle que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont en guerre depuis plusieurs années. Voilà, c'est peut-être moins sexy que le PSG, c'est peut-être moins sexy que Mbappé, mais voilà, moi je préfère les histoires. Je préfère vous raconter des histoires plutôt que de faire le buzz.
T'en prends, Marc.
Ouais, et c'est exactement.
C'est pas gentil.
Ouais. C'est une drôle d'histoire, ouais. Dramatique pour lui. Ouais. Évidemment, toutes les informations sur rmcsport.fr. Merci pour cette proposition, Christophe. Denis Charvet, ta proposition.
Écoute, moi, j'en ai marre des provinces sud-africaines dans la Champions Cup, la Coupe d'Europe de la nouvelle Coupe d'Europe de rugby, évidemment, qui s'appelle la Champions Cup.
Les huitièmes de finale.
Voilà, j'en ai marre.
Week-end.
Je vous expliquerai pourquoi, parce que voilà, il y a un calendrier de fou avec des équipes qui se déplacent à 9000 km avant de jouer un match à huitièmes de finale. Ça rime plus à rien. C'est faut les enlever.
Ok, le coup de gueule contre la Champions Cup. On a bien compris. Marc Madio.
Oui, moi, c'est Kylian.
À toi, Marc. Pas après tout ce que tu as fait, quand même. C'est pas possible.
C'est Kylian.
Pourquoi ?
C'est Kylian qui m'énerve.
Ah.
Ouais.
Alors, tu sais quoi ? N'en dis pas plus.
Oui,
non, mais ça suffit. C'est déjà très bien vendu. Kylian m'énerve et on veut savoir pourquoi.
Oui, mais voilà.
Si vous choisissez Marc Madio.
Oui, mais sur deux, parce qu'il peut gagner rien que sur ça.
Ben oui,
mais oui, ben, c'est pour mais ça que je l'arrête là.
Moi, j'avais fait un débat sur Mbappé, vous l'avez refusé, hein, je vous signale.
Kylian m'énerve. C'est la proposition de Marc Madio. David Douillet.
Moi, je voulais faire un petit tour du côté de la F1, puisque c'est le week-end du Grand Prix du Japon. Là, il y a 15 jours, l'ami Sainz chez Ferrari a gagné, même si Verstappen n'avait pas concouru, puisqu'il a cassé la voiture. Enfin, la voiture a été cassée. Il y a du rififi un petit peu chez Ferrari, parce que Sainz, Leclerc, Sainz étant partant, on peut se demander s'il peut se passer. Il est devant Leclerc systématiquement. Et les, comment dirais-je, c'est encore le cas pour par rapport au qualif du Grand Prix du Japon. Il y a du rififi aussi chez Red Bull. Voilà, Red Bull n'était pas sur le podium la semaine dernière. Est-ce que on est à l'aube d'une passation de pouvoir sur le leadership de la Formule 1? C'est ma question.
Ok, c'est la question et c'est la proposition de David. Sachez qu'il y avait ce matin.
Pourquoi ça ricane derrière là?
Ça gagnera
pourquoi
jamais.
Ça ricane.
C'est Denis qui fait les grimaces.
Tu peux pas gagner, David.
Mais face à Mbappé, c'est difficile de gagner.
Non, mais j'avais
soumis au vote, les copains.
J'avais un autre thème, mais j'ai retrouvé le fils caché de Denis Charvet au sein du peloton pour le Tour de France. Et ça, je sais pas. Justement, c'était la question.
Ah, tu voulais rechercher mon fils caché.
Un des fils cachés de Denis Charvet au sein du peloton du
Cirque. Le Grand Prix Suzuka, il y a eu les qualifications ce matin. Verstappen en 1, Pérez en 2, Norris en 3, Sainz et Leclerc 4 et 5. Sainz, David a raison, de nouveau devant Charles Leclerc. Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation d'Alfred Hitchcock qui a dit un jour « Les femmes sont comme le suspense. Plus elles éveillent l'imagination, plus elles suscitent d'émotions. »
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Attaque de Pogacar avec Vingegaard qui prend la roue du maillot blanc. Va-t-il craquer Vingegaard? Attaque très violente de Pogacar, mais Vingegaard pour l'instant ne lâche rien.
Ok, ils sont les plus forts, mais on a envie de les voir s'affronter.
Pogacar qui attaque avec Vingegaard qui réagit immédiatement et qui tente de prendre la roue du maillot blanc. Le mano à mano qu'on a déjà vu à maintes reprises sur les routes de ce Tour de France. C'est Pogacar qui est en train de faire péter Vingegaard.
Je rêve que d'une chose, moi, je rêve d'être téléporté en ce moment là jusqu'à Florence le 29 juin au départ du Tour de France. Bah voilà. Ça va être un grand moment.
Chute terrible il y a quelques instants sur les routes du Tour du Pays Basque à 35 km de l'arrivée. Dans cette descente, Jonas Vingegaard est au sol, Primoz Roglic est au sol, énormément de coureurs qui sont partis à la faute. C'est un véritable carnage sur la route de cette quatrième étape.
Dans un peu moins de 3 mois, vous l'avez entendu dans la bouche de Christophe Cessieux, le Tour de France s'élancera de Florence. Une course contre la montre s'engage déjà pour le grandissime favori, le tenant du titre Jonas Vingegaard, sévèrement blessé. Vous l'avez entendu, on en parlait déjà à 10h lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Avec lui, deux outsiders sont également tombés, le prodige Remco Evenepoel qui pour la première fois veut jouer le général sur le Tour et Primoz Roglic. Tadej Pogacar se retrouve bien seul aujourd'hui, mais il disputera également le Giro, la musique qui fout les jetons. Et cette question ? Le Tour de France est-il totalement relancé ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Oui.
Marc Madiot ?
Non.
David Douillet ?
Oui.
Denis Charvet ?
Non.
Un de compte deux. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste vélo, Arnaud Souk, de nouveau dans cette émission, en direct de Roubaix.
Il dit quoi, lui ? Oui ou non ?
Moi je dis non.
Tu dis non?
Si je peux m'engager.
D'accord, ok.
Il dit non. Bah évidemment, la voix du sage, Marc Madiot a parlé, il a dit non.
Comment on s'est croisé ces derniers temps? J'aurais été étonné que Marc Madiot dise oui en vrai.
Nous aussi, mais il va devoir s'expliquer. Alors Arnaud, déjà avec toi un point sur les gravités des blessures et notamment Jonas Vingegaard, le plus sérieusement touché.
Oui, bilan sérieux, mais quand même beaucoup moins grave, entre guillemets, hein, que ce que les images nous avaient dans un premier temps laissé imaginer. Rappelons quand même que Jonas Vingegaard, après sa chute, a été placé en position latérale de sécurité. Il a été mis sous assistance respiratoire avant d'être évacué vers l'hôpital. Il souffre de fractures de la clavicule et des côtes. Précision également hier matin de son équipe Visma Lease Bike. Le Danois souffre aussi de contusions pulmonaires et d'un pneumothorax. Également pris dans la chute jeudi, Remco Evenepoel, le Belge, souffre lui aussi d'une fracture de la clavicule, de même que son lieutenant présumé sur le prochain Tour de France, Mikel Landa, qui a lui chuté vendredi puis est évacué vers l'hôpital. Enfin, parmi les gros noms également partis au sol sur le Tour du Pays Basque, Primoz Roglic, triple vainqueur de la Vuelta et lauréat du Giro l'an passé, a lui abandonné mais ne souffre que de brûlures superficielles. Pour ce qui est d'une participation au Tour de ses coureurs, elle ne semble pas pour l'instant remise en cause de manière absolue. Un précédent récent de coureurs victimes d'une fracture de la clavicule existe, c'est Florian Sénéchal. Fin février, il est allé au sol, il s'est fracturé la clavicule et il a pu reprendre la compétition 3 semaines plus tard. Et puis, sur la question du pneumothorax qui touche également Jonas Vingegaard, là c'est plus problématique évidemment, c'est très délicat. La gravité n'est pas encore totalement déterminée ou en tout cas pas totalement rendu public. Là aussi, un précédent récent existe quand Julien Alaphilippe avait violemment percuté un arbre sur Liège-Bastogne-Liège en 2022. Il avait pu reprendre la compétition 2 mois plus tard.
Merci Arnaud pour toutes ces précisions. Le Tour de France est-il totalement relancé? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. On va commencer avec un oui. Christophe Cessieux.
Il est évidemment relancé, de la plus mauvaise des manières, mais il est relancé. Il est relancé pourquoi? Parce que jusque-là, il y avait quand même, au départ de ce Tour de France, effectivement les quatre fantastiques, c'est-à-dire Evenepoel, Pogacar, Vingegaard et Roglic. Mais parmi ces quatre, il y avait un immense favori qui était Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant qui avait mis la misère à Pogacar l'année dernière et qui s'avançait une nouvelle fois comme le grandissime favori. D'autant qu'il se préparait exclusivement pour le Tour de France. Alors que son adversaire numéro 1, Pogacar, avait décidé justement, a pris 2 baffes dans la gueule, et bien de se lancer un autre défi, c'est-à-dire être au départ du Giro. Et on sait que c'est très compliqué, puisque c'est pas arrivé depuis des années, de remporter à la fois Giro et Tour de France avec un seul mois d'écart entre les deux. Donc là, on change de favori. On change de favori parce que Vingegaard, il est quand même sérieusement touché au poumon. Il est touché à la clavicule, aux côtes, et qu'il lui reste 12 semaines pour se remettre en état. Ouais, rappelez-vous l'année dernière, Pogacar se fracture le poignet sur Liège-Bastogne-Liège, c'est-à-dire un tout petit peu plus tard, c'est fin avril. Eh bien, il est arrivé au départ du tour, c'est une petite fracture qui l'a pas empêché de s'entraîner. Il est arrivé au départ du tour, il n'était pas dans le même état que d'habitude. Alors là, je ne sais pas dans quel état va arriver Vingegaard s'il arrive au départ du tour. Moi, je suis très pessimiste quant à sa participation. C'est quand même un truc très sérieux qui lui est arrivé. Et je suis persuadé que s'il n'est pas en état de jouer la gagne, il ne se présentera pas au départ du Tour de France. Donc, évidemment, qu'on a changé, on a changé de favori pour le Tour. Alors, pour Roglic, a priori, c'est pas grave, il sera de nouveau là. Mais enfin, on sait jamais, d'ici là, il peut se gameler encore 3-4 fois. Evenepoel, lui aussi, sera diminué avec cette fracture de la clavicule. Il va pas pouvoir faire les classiques de printemps. Donc, on change de tout. Et puis, Pogacar va faire le Giro. Et au rythme où ça va, dans quel état sera-t-il le départ du Tour de France?
Marc Madio, pourquoi non, alors?
Bah, pourquoi non? Tout simplement parce que le Tour n'est plus relancé. Il est emballé et pesé, avec
Pogacar.
Il a une telle marge de sécurité en termes de capacité par rapport à la concurrence, je vois mal comment il ne va pas faire le doublé. Donc pour moi, il n'y a pas de relance. Hein. C'est pire. Le match est plié avant d'être commencé.
C'était pas Vingegaard ton favori avant le.
Oui, mais à partir du moment où il n'est plus là.
Non, bah oui, mais ça change.
Le tour n'est pas relancé. Il est encore plus plié, je trouve.
Mais oui. Oui, mais on change de.
Non, mais il a raison. C'est-à-dire qu'on peut poser la question après ses chutes, justement, s'il y a l'occasion de voir autre chose. Pour toi, il a un boulevard.
Ah, bah oui.
Oui.
Ok, même s'il y a le Giro.
S'il tombe pas sur le Giro. Si les petits cochons. Ah, bah oui. Bah oui, oui.
Non, mais là-dessus, t'as raison, parce que si on reste sur le rythme de chute que nous avons en ce moment, on en reparle dans un mois.
David Douillet, pourquoi il est relancé?
Non, mais Christophe a tout dit. Franchement, il était brillant, pour une fois.
Concis, brillant.
Non, mais franchement, il a tout dit. Et moi, je trouve que, contrairement à Marc, le fait de changer de leader, c'est une relance du tour. Et peut-être que certains vont avoir quelques idées pour aller titiller l'ami Pogacar et trouver leur place par rapport à un Vingegaard qui sera peut-être pas là, un Roglic qui sera diminué, un Evenepoel qui sera aussi peut-être diminué.
Oui, mais s'il n'y a pas de concurrence, David.
Non, mais ça va courir pour
le problème. Si à partir du moment où il y a plus de concurrence, s'il va écraser le tour, tu peux pas raisonner comme ça.
Derrière, ça va courir pour faire deux ou trois.
Mais si je raisonne comme ça, parce que il y a peut-être d'autres coureurs, et je m'adresse à Marc, il y a peut-être d'autres coureurs qui vont pouvoir
rivaliser avec lui, non?
Denis. Il y a, tu sais comment ça fonctionne dans le tour. Il y a des équipiers, il y a des porteurs d'eau, etc., etc. Peut-être que certains vont commencer à essayer d'aller tenter leur change, de changer de statut. Justement parce qu'il y a la place pour ça.
J'y crois pas une seconde.
Il y a aucune chance.
La question que veut te poser David, et il veut pas y aller frontalement, mais je vais y aller frontalement. Toi, quand tu vois ça, quand tu vois ces chutes à répétition, on en a parlé à 10h et ça te
dit qu'il y a une ouverture.
Ça ne te réjouit absolument pas. C'est pas mon propos. Mais si on est un peu perfide pour la Groupama FDJ, si on est un peu perfide, voire beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Qu'il n'y ait pas.
Tout ce qui se passe en ce moment, ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le Tour de France, parce que je pense qu'on avait sur l'affiche.
Fantastique.
On avait une affiche de rêve qu'on n'avait sûrement pas eu depuis très très longtemps. On avait vraiment sur le papier une affiche de rêve. Et là, l'affiche de rêve, elle est en train de prendre feu.
C'était un mano à mano. En fait, c'était comme un combat de boxe.
Ouais. Il y avait un duel et deux arbitres. Là, il y a plus de duel et des arbitres qui sont diminués. Donc.
Et ça enlève beaucoup de sel à ce.
Évidemment.
Après, heureusement, la glorieuse incertitude du sport. Et là, petit tacle pour David, c'est pas qu'une histoire de budget.
Si vous avez manqué le début, faut que vous reprenez le débat.
Sur le débat sur l'Olympique de Marseille. Le manager de Jonas Vingegaard qui a réagi hier et il a dit qu'il faudra attendre, évidemment pour la présence ou non de Jonas Vingegaard sur le Tour de France, il faudra attendre des jours, voire des semaines, avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur le Tour. Marc, quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois la gravité de la blessure, tu te dis quoi? Tu te dis c'est
est-ce qu'il a une chance?
Alors, je vais reprendre des propos qu'a tenu le manager Richard Ploug, qui est un ami.
Avec une petite bière.
Là, faut suivre, évidemment.
Je sais qu'il a déclaré auprès de certaines personnes, c'est mauvais pour le business.
Ok. Ouais.
Voilà.
Pour le business de son équipe.
Son business.
À lui.
À lui, en... ah oui, il commence toujours par lui en général. Il s'oublie pas.
Alors c'est mauvais pour le business, mais est-ce que Jonas Vingegaard a des chances, toi qui connais les coureurs?
Compliqué. Pour le Tour?
Ouais.
Très compliqué.
C'est 12 semaines, hein, c'est 3 mois. Hein. T'imagines?
On a vu des cas comme ça, Marc,
ouais,
pour en venir.
Franchement, ça va être compliqué.
T'en as pas vu des cas que.
Bah, après, tout dépend à quel niveau tu veux jouer. Oui. Sur le fait de potentiellement au départ et de faire le Tour en tant que coureur, il y a une possibilité. Encore, tout en ayant à présent à l'esprit le fait qu'on n'a pas le bilan médical tel qu'il est en réalité. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'on apprendra ou qu'on découvrira avec le temps. Mais si on est un brin logique, ça va quand même être très compliqué pour le Tour. Je vois pas. Enfin, il peut être au départ du Tour, mais pour quel rôle?
Bah, la situation de Vingegaard, elle est plus alarmante que celle de Pogacar l'année dernière.
Ah, bien sûr. Les blessures sont beaucoup plus sérieuses.
Et je me posais une question parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans la presse. Remco Evenepoel, qui est donc
l'omoplate aussi. Hein,
l'omoplate et clavicule.
Il n'y a pas que le leader de la Quick-Step. Alors Patrick Lefebvre a dit que il n'y avait pour l'instant pas raison de s'alarmer sur le Tour, que tout n'était pas remis en question. Mais tout de même, on se souvient que Julian Alaphilippe, que Remco Evenepoel avait dit il y a quelques semaines, bah moi j'aimerais bien comme coéquipier Julian Alaphilippe. Est-ce que ça peut remettre Julian Alaphilippe dans la danse?
Alors, là, je sais pas. On l'a entendu là, l'interview qu'il a accordée à Arnaud il y a quelques jours. Sa réponse était vraiment ferme et définitive. Il ne veut pas faire le Tour de France. Alors évidemment, si Evenepoel n'est pas là et que Lefebvre lui offre une place de leader, mais on rappelle que Julian va faire le Giro lui aussi hein, dans quelques semaines. Hein, donc pour le faire changer d'avis, je sais pas.
Mais ça va peut-être donner des idées. On sait jamais.
Bah oui, c'est ce que je me dis, Marc.
Non, mais Evenepoel, lui,
pas pour la gagne.
Je pense qu'Evenepoel sera au départ du Tour de France. C'est une clavicule. C'est un omoplate. Alors, il sera peut-être pas. Aussi fort qu'il aurait pu l'être, mais je pense qu'il sera au départ.
Pourquoi,
c'est trop important,
Marc,
pour le faire.
Pourquoi tu dis pas pour la gagne pour la Philippe?
Pour la gagne?
Pour la gagne?
C'est un Tour, ouais. C'est impossible.
Non, David, c'est fini. Ça.
Pourquoi?
Même à son meilleur niveau, il pourrait jamais gagner.
Regarde ses résultats.
Il n'a pas le niveau qu'il avait il y a 3-4
ans. Il le reconnaît lui-même. Il le reconnaît.
La concurrence à moi, c'était élevé.
Je le sais bien, mais un champion, ça reste un champion.
Ouais.
Non,
mais lui, hein,
tu m'as dit tout à l'heure que l'incertitude du sport elle existe. Je suis d'accord avec toi, que c'est pas une question d'argent. Ouais. Je suis d'accord avec toi, sauf dans le foot, excuse-moi.
Mais non,
foot,
mais là où je rejoins
David, là il faut aller à la grotte à Lourdes.
Oui, mais regarde Thibaut Pinot avec toi, il a failli gagner.
Oui, on a eu un bon concours de circonstances cette année-là. Toutes les planètes étaient alignées.
Enfin, c'est un coureur de grand.
Mais
ça existait.
N'empêche qu'aujourd'hui, non, mais si on est objectif par rapport à la situation d'aujourd'hui, qui n'était pas la même à l'époque de Pinot, quand tu fais référence à ce Tour de France.
2019.
La situation aujourd'hui sur l'échiquier du peloton, il y a Pogacar, par rapport au Tour de France de cette année, oui. Compte tenu de ce qui vient de se passer cette semaine, Pogacar a un boulevard devant lui.
Ok, bah ça nous fait plaisir de dire à 3 mois de la compétition que le Tour de France est plié. Franchement, je m'attendais pas à ça. Très bien. Marc, en plus, ça vient de toi, Marc. Et après,
on est là pour donner la vérité.
Exactement.
Écoute, je vais te dire
pas qu'on ressent.
Voilà.
On posera la question à Christian Prudhomme demain, qui devrait être avec nous.
Tu sais ce qu'il va te faire, Christian?
Il va me dire.
Ah, il va te faire une belle déclaration politique.
Dis-nous comment il va la jouer.
Il y a encore un peu de temps d'ici le départ du Tour de France. Tout n'est pas écrit définitivement. Et puis de nouvelles révélations, de nouveaux talents peuvent se produire au moment du Tour de France.
Les super champions sont des hommes pas comme les autres.
Voilà.
Remettre. Il peut être performant au départ du Tour.
Est-ce que tu pourras avoir Pogacar un jour dans ton équipe?
Pardon?
S'il gagne l'auto.
Je te pose une question.
S'il gagne l'auto. S'il a MDJ, il fait gagner le super loto européen.
Est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu voudrais avoir Pogacar dans ton
équipe? Le rêve d'avoir un coureur comme Pogacar, on le fait tous. La capacité et les moyens de l'avoir, non.
Financièrement impossible.
Aujourd'hui, financièrement, c'est impossible. Oui.
De toute façon, Pogacar veut les oreillettes et toi, t'en veux pas.
Je suis pas sûr qu'il a envie de venir.
Rapidement, ça laisse une petite place pour David Gaudu d'être deuxième du Tour.
Ce qui paradoxalement va se passer. Bon, tout le monde va faire.
On
va avoir maintenant. C'est-à-dire que oui, Pogacar, il est au-dessus de la mêlée. Donc, pour le vainqueur, Il y a pas de, enfin pour moi il y a pas de suspense. Et puis derrière il y a deux Lascar qui sont Roglic et Van der Poel, qui sont a priori les candidats potentiels pour le podium. Puis après vous allez avoir une quinzaine de coureurs qui vont dans la même situation et qui vont se dire mais je peux peut-être faire 4 ou 5 du tour. Voilà.
Voilà, il s'est transformé en politique là. Vous avez vu il a remis le
revue le costume du politique.
Dès qu'on parle de son équipe, t'as vu comme il est moins disert, comme il baisse d'un ton et tout, et ben, il est politique, voilà. Comme Prud'homme, l'appartient Magnot,
les
politiques.
Allez, on revient dans quelques instants pour la suite de nos débats. Ce sera le débat caché d'ailleurs. Ce sera pas du vélo, mais proposer un truc assez sympa. J'imagine que vous avez un avis sur cette question. À tout de suite dans les grandes gueules du sport pour le débat caché. Exactement.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h29, j'avançais un peu. 11h29, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, David Douillet, Marc Madiot, Denis Charvet. Restez bien avec nous car dans 10 minutes, les GG contre-attaque, 4 très bons débats proposés. Mais vous allez devoir trancher, chers auditeurs, pour l'instant. Marc Madiot a un petit peu d'avance parce qu'il a juste dit. Il a juste dit pour le teaser.
Mbappé,
hein.
Il a dit Mbappé le mot magique.
Non.
Mbappé tu gagnes, c'est sûr. C'est
il a ajouté un verbe
dans cette émission.
Il a dit Mbappé m'énerve.
Ah oui.
Et après 3 points de suspension, on ne sait pas pourquoi. Pour l'instant, c'est le débat choisi. Mais évidemment, vous pouvez encore voter. Vous avez 10 minutes. N'hésitez pas à aller sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Pour la première fois, oui, ça arrive, un débat caché. Vous n'êtes au courant de rien, les GG, et pourtant, vous allez devoir réagir. Le débat caché du jour, c'est ça.
Le silence se fait, et Casper Ruud qui insiste sur le coup droit de Nadal, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il change, il joue sur le revers, attention Casper Ruud est en difficulté. Nadal a une balle d'attaque, il monte,
elle est sur la ligne, et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il n'en croit pas ses yeux. Rafa Nadal remporte cette finale haut la main, 6-3, 6-3, 6-0, une démonstration. Quel immense champion!
Eh oui, quel immense champion Rafael Nadal. C'était lors de son dernier Roland-Garros. Mais le suspense a pris fin jeudi comme une évidence, sans réelle surprise. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a annoncé qu'il déclarait forfait pour le tournoi de Monte-Carlo, le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue. Voici ce qu'il dit. « Je traverse une période difficile sur le plan sportif. Je dois malheureusement vous informer que je ne jouerai pas à Monte-Carlo. Mon corps ne me le permet pas tout simplement. » Bien que je continue à travailler et à faire de mon mieux chaque jour avec l'illusion de pouvoir participer à des tournois qui ont été très importants pour moi, la réalité est que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Un nouveau coup dur évidemment pour l'Espagnol à un mois et demi de Roland-Garros, lui qui n'a plus joué depuis début janvier. Lors du tournoi de Brisbane, c'était alors son grand retour après un an d'absence. Notre débat, croyez-vous encore au miracle Nadal? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je réfléchis, non.
Non. Marc Madiot.
N'y crois plus, mais je respecte son choix de vouloir continuer.
David Douillet.
Oui.
Il croit toujours au grand champion, David Douillet. Denis Charvet.
J'ai envie d'y croire.
C'est oui aussi. C'est un 2-2. Avant de débattre, on va retrouver Eric Salio, notre spécialiste tennis. Salut Eric.
Je me doutais bien quand il est entré dans le studio qu'on n'avait pas parlé de Formule 1.
Il y avait un petit indice. Il se nomme Eric Salio.
Salut les grandes gueules.
Ça va Eric?
Ouais. Pourtant j'avais ma tenue camouflage, mais évidemment ça a pris.
Non, on te suit à l'odeur.
C'est vilain. Hein. Il est content de ça.
Il est content, regarde-le.
Pardonne-moi Eric, c'est venu comme ça, voilà.
Non mais c'est son parfum.
Oui évidemment.
Je ne parfume pas Marc, il a peut-être Marc. Raison finalement.
Mon cher Eric, déjà donne-nous quelques informations peut-être dans la coulisse de ce qui se passe réellement avec lui.
Bah, les infos qui remontent de Majorque, c'est qu'effectivement il a traîné ces dernières semaines une petite gêne au dos. Donc quand t'es pas prêt à servir. Tu prends pas le risque de te frotter au meilleur, parce que je rappelle une chose importante, le tirage au sort a eu lieu hier soir, il aurait très bien pu prendre dès le premier tour un garçon comme Dimitrov ou Tsitsipas. Donc je pense qu'avec son équipe, ils ont pesé le pour et le contre. Moi, j'ai pas envie de céder à l'affolement, on est à 50 jours de Roland-Garros. Son objectif ultime, c'est d'être présentable. Alors je mets des guillemets parce que ça veut dire beaucoup et rien à la fois, mais je pense qu'il veut s'offrir une last dance sur le court Philippe Châtrier parce que il la mérite, parce que c'est un homme qui a du cœur, qui a des valeurs, et je pense que fouler le châtrier, recevoir cette ovation, c'est un truc qui mérite de vivre peut-être une dernière fois.
Mais ça, il mérite de le vivre, ça on est bien d'accord, mais on sent que à chaque fois que les tournois approchent, il y a un flou autour de lui et inévitablement il y a toujours le forfait.
Il y a presque comme un refus d'obstacle, je suis d'accord. Mais je pense qu'à un moment il va se jeter à l'eau, quoi. Il faut qu'il y aille à un moment.
Mais Eric, l'année dernière on a eu les mêmes interrogations pratiquement sur lui. Il a gagné Roland Garros.
L'an dernier
il y a deux ans, pardon.
Il y a deux ans, oui.
Il y a deux ans.
Oui, alors c'était différent parce qu'il avait très mal au pied et il avait des injections. Je regarde Marc Madiot parce que ça m'a... Je me souviens qu'il avait réagi.
Il avait adoré d'ailleurs.
On lui avait endormi le pied, Marc. Ah, c'était pas interdit. Et il avait gagné le titre, mais le lendemain, il ne pouvait plus marcher.
Avec un pied endormi.
Voilà, avec un pied endormi.
Il est... Comment dire, ce gars, il est prévisible quand même.
Oui.
À ce niveau-là, par rapport à son corps, par rapport à...
Non, mais là, le problème, c'est que ça casse de partout. Donc c'est ça qui est inquiétant.
Et surtout, est-ce que, selon toi, tu parlais de, et après je vous donne la parole évidemment, de refus d'obstacle, est-ce qu'il peut se présenter uniquement sur Roland ? Ou est-ce que là, il va falloir quand même qu'il joue ?
Moi j'ai suggéré hier qu'il commence en deuxième division, qu'il joue des challengers, il y en a quelques-uns, il y en a un à Aix-en-Provence, pourquoi pas Bordeaux, ça peut être une bonne solution de repartir sur des joueurs moins forts, parce que le risque, c'est que là il est inscrit à Madrid, c'est un Masters 1000, tout de suite il peut prendre un mec qui est 35 mondial. L'obstacle, il est haut quand t'as pas joué depuis 3-4 mois.
Ok, Denis Charvet, t'as envie d'y croire ?
J'ai envie parce que c'est Nadal, voilà, parce qu'il m'a fait rêver, que j'ai envie de continuer à rêver de revoir Nadal gagner à Roland, mais même si ça paraît, ça paraît fou, quoi, le pari semble fou. Et puis ces blessures à répétition me font dire que ça va être de plus en plus compliqué, mais j'ai envie de le voir au moins un match. Voilà, comme tu disais, Eric.
C'est alors c'est quoi la question ? C'est croyez-vous au miracle de le voir un jour reprendre une raquette de tennis en tournoi ou de remporter Roland Garros ? Parce que ça change tout quand même. Hein.
Ouais, mais remporter,
c'est comme Vingegaard au départ du tour ou Vingegaard vainqueur du tour. Il y a quand même un gap entre les deux, quoi.
Oui, mais moi rêver, c'est de le voir
Roland Garros.
Non, mais la prochaine, il sera plus à Roland.
Bordeaux
une dernière fois fouler Philippe Châtrier, comme tu disais.
Ok, pour toi, ce serait ça le miracle déjà.
Ah oui, ça, okay. Oui.
Sauf que, Raphaël Nadal, on n'a pas envie de le voir juste au premier tour de Roland.
Non.
Oui, mais moi, je suis pas un fan de Nadal, mais je trouve que ce qu'il fait, c'est son droit, et il mérite le plus grand respect. Quelle que soit l'issue, quelle que soit la manière dont il va venir ou pas à Roland-Garros, je lui souhaite d'être à Roland-Garros, au moins pour avoir l'ovation qu'il mérite.
Oui, voilà, la sortie qu'il peut avoir.
Il mérite une grande sortie. Et c'est à lui d'en décider de cette sortie.
La grande sortie, c'est pas forcément de gagner le Grand Chelem. C'est pas...
Donc en fait, ici là, autour de la table, il n'y a personne qui croit qu'il puisse remporter un Grand Chelem. En Roland-Garros. Si. Ah si, David, oui. David pense que Julien Alaphilippe va gagner le Tour de France et que l'OM va gagner la Ligue des Champions. Donc, je veux dire, à un moment...
David, raconte-toi que Christophe grossit rarement le trait.
Non, légèrement, mais c'est avec des raisonnements comme ça qu'on gagne rien, Christophe.
Ça, tu as raison.
Voilà. C'est vrai, mais voilà.
Tu as raison, David.
La différence,
bravo,
elle est là.
Bravo,
la différence,
David.
Elle est là.
Bravo, David.
Un double champion olympique et un double champion de sa cour de récréation et en maternelle.
Vas-y, David. Vas-y, toi, tu y crois encore.
Non, mais moi, je crois en la magie. Il y a un truc magique pour Nadal à Roland Garros. Même que Roland Garros a créé Nadal, tu vois. Et donc, pour un garçon comme lui, bien sûr, on est lucide. Tous les voyants dans son cockpit, ils sont au rouge. Voilà. Mais quand t'arrives là-bas, t'as tous tes souvenirs qui reviennent, tu vois, comme et tu fais un démarrage de compétition où tu prends un adversaire qui te fait monter en puissance, puis un deuxième tour qui te tu vois, si c'est sûr que s'il prend un taulier tout de suite, ça va être très compliqué.
Mais ça risque d'être ça, David. Hein.
Ouais, je sais, mais ça risque de pas être ça non plus. Donc s'il peut démarrer un Roland-Garros tranquillement, monter en gamme, se mettre dans le rythme tranquillement, je suis sûr que la magie peut s'opérer.
Mais il y a un moment donné, David,
avec le mental qu'il a.
J'entends que tu défends les champions, mais il y a la réalité du haut niveau. C'est pas à toi que je vais l'apprendre quand même.
Mais la réalité, elle est quelquefois, tu sais, on peut écrire dans le monde du sport, on pourrait écrire des scénarios, on n'ose même pas les écrire, la vérité qui peut s'opérer dans le monde du sport. Tellement elle est improbable, tellement elle est incroyable. Je te jure que c'est vrai. Et il y a 1000 exemples dans tous les sports qui peuvent nous confirmer ça. Et Nadal peut être un de ces acteurs-là. Un acteur qui on parle de miracle, oui, ça peut arriver. Et il en a les capacités pour que ça arrive. S'il prend cette décision-là pour Monte-Carlo, c'est pas pour rien. C'est parce que il a au fond de la tête Roland-Garros en ligne de mire. Et quand un mec comme lui se met un objectif, je peux vous assurer que c'est pas la même chose pour un autre compétiteur.
Il faudra celui non, mais il faudra, avait déclaré non, mais il y a quelques jours.
Compétiteur.
Il a déclaré. Oui, mais c'est justement, c'est un pur compétiteur. Et vous, vous parlez de Last Dance avec juste peut-être un match. Il faudra peut-être qu'il y a quelques jours. Il a dit, moi, si je reviens, c'est pour gagner.
Non, je veux dire, ce serait magnifique. Et évidemment qu'il y a de belles histoires. Mais là, il y a tout qui fout le camp quand même dans le corps de Nadal. Un coup, c'est le dos. Le lendemain, c'est le pied. Le surlendemain, c'est le psoas. Son corps est en train de le lâcher. Et on le disait il y a quelques années, lorsqu'il était au sommet de sa gloire, avec son jeu tellement physique, on se disait ça fera pas un beau vieux. Et aujourd'hui, on arrive
mais
à ce... Non mais David, évidemment que moi aussi je rêve que les plus grands champions, que Federer revienne et qu'il dispute la finale face à Nadal. Mais à un moment, il faut quand même voir la réalité en face.
Moi, j'ai
c'est bien
ça,
bon d'aller mettre les cierges. Je veux dire que tu crois en la Vierge, que tu bois l'eau des pâtes. Enfin, j'en sais rien. Mais à un moment, il faut quand même il faut se rendre.
Non, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure.
Parce que la Vierge a affaire là-dedans.
Tu peux. J'allais parler de toi.
J'ai vécu, non mais je te jure, moi j'ai vécu ça. Ben oui. Je te jure que pour moi ma dernière compète, mais c'était un miracle. J'avais tous les voyants en rouge. Je te promets. Sauf que la magie des jeux a opéré. Je te le jure que c'est vrai. Vraiment.
Mais toi,
il y avait pas grand monde. Je te jure que dans mon entourage, il y avait pas grand monde qui donnait.
T'avais pris des antidouleurs ce jour-là, Sydney ou non?
Mais je pouvais pas en prendre tellement j'avais des douleurs, mon pote.
Ouais, c'est tellement
il aurait fallu que je prenne un camion d'antidouleurs. C'est impossible.
Je crois d'ailleurs, David, que c'est ce matin de la compétition où tu glisses dans la douche. Non, je me trompe de compétition ou pas?
Non, non, mais t'as raison. Quand je prends ma douche le matin des Jeux Olympiques, les derniers que j'ai fait et j'ai gagné, j'ai mon coude droit qui se bloque en me savonnant, tu vois. Le truc, c'est un truc de donc ça pouvait m'arriver à n'importe quel moment dans la journée. Oui. Non, mais moi je me
avançons
temps,
dans le débat, arrêtez non, avec la.
Non, mais je te promets.
La seule différence, quand même, je pense que c'est au niveau de l'engagement physique. Je dis pas que tu t'engages pas, David.
La seule différence, mais... c'est le mental, Denis. Je
non,
te jure que
non,
le mental.
Mais non, parce que.
Le mental peut nous faire des choses.
Denis, c'est tellement devenu violent et intense, je veux dire, que l'enchaînement des 5-7, parce que ça peut être du 5-7 pour lui.
Je te propose de prendre un japonais, Shinohara, en pleine face, tu vas voir si c'est pas violent.
Non, mais je remets pas en cause ce que t'as fait. En plus, je voulais en parler tout à l'heure.
Je te propose de le suivre, tu vas voir.
Parce que c'est vrai que quand t'es revenu, personne croyait en toi et t'as gagné.
Shinohara, époque, tu prenais un bus en pleine figure, tu vois.
Non, donc mais c'est tout, pas tout est possible en sport, David. Je te rejoins là-dessus. Après, moi, j'y crois pas parce que je pense que ce mec il s'est tellement dépensé, il a tellement donné que j'ai du mal à croire que sur une quinzaine comme ça, avec l'enchaînement des matchs qui vont être les siens, parce que je pense qu'au premier tour, au deuxième, il va prendre déjà des mecs un peu forts.
C'est possible.
Vous avez perdu la foi du haut niveau. Il faut avoir cette foi.
Soyons moins exigeants. Regardons les Jeux Olympiques. Là, c'est autre chose. Parce que c'est un tournoi sur 5-7. Une semaine.
Oui. Ah, oui.
Et puis il y a le double. Parce qu'il rêve de jouer le double avec Alcaraz. Il mise la médaille.
Non, oui. Est-ce que c'est possible? C'était ma prochaine question pour
Et là, ça fait une sortie.
Est-ce que c'est possible qu'il déclare forfait?
Et on est toujours à Roland.
Est-ce que c'est possible qu'il déclare forfait pour Roland? Parce qu'il se dit. Voilà, je vais faire deux tours.
Joue pas Roland là,
ça non, quoi qu'il arrive, il veut faire Roland. Mais Roland, est-ce que ça peut lui servir de préparation pour les JO? Tu vois ce que je veux dire?
Pardon?
Est-ce que Roland, ça peut lui servir de prépa pour les JO?
Oui, bien sûr. Mais
dans sa tête.
Oui, bien sûr.
Non, tu crois pas qu'il va renoncer à Roland?
Moi, je suis convaincu qu'il sera sur le Châtrier le dimanche, le lundi ou le mardi.
Ouais.
Après, je dis pas que je mettrai pas ma maison hein, pour qu'il gagne le tournoi. Il a 1% de chance, mais ça peut lui servir de prépa. C'est ce que disait souvent Federer. Federer, il a mal fini. Hein,
mais Federer, mais c'est mais moi, ça me rappelle vraiment l'histoire de Federer.
Oui.
C'est repousser ses retours.
On n'a jamais su quand il perd sur Hurkacz qui venait de disputer le dernier match de sa carrière. Ouais. Wimbledon.
Et il y a Djoko qui arrive derrière. Et Djoko.
Lui rigole pas.
Ouais. Bah non, mais Djoko, il est pas dans
autre chose, mais quand même.
N'oubliez pas que c'est un passionné de compétition. Et quelquefois, il a tellement eu de résultats que c'est plus très grave. Mais la compétition, il sait que c'est la fin. À mon avis, il a encore envie de croquer. Rien que pour le. pour l'histoire de la compétition.
En tout cas, les bookmakers sont toujours prudents avec Nadal. Alors évidemment, quand il est au meilleur de sa forme, il était favori. Il n'est plus favori, mais il est quatrième favori pour remporter Roland. Sa cote est seulement à 6. C'est donc franchement, vrai. Ça vaut même pas le coup de le jouer.
Tu vas pas la jouer.
Ah bah non, franchement, ça vaut. Il serait à 50, tu le joues, mais là, à 6. 50, oui. D'ailleurs, les paris RMC, ce sera dans 17 minutes avec toute la Dream Team.
Ça, c'est fort.
Avec Denis Charvet. C'est pour l'enchaînement que tu dis
là aujourd'hui?
Ah ouais, magnifique.
Ouais, c'est vrai que je travaille mes enchaînements.
Non, non, vraiment, sincèrement, c'est bon.
Je travaille. Tu diras à mon patron que les enchaînements sont bien. Mais dans quelques instants, les GG contre-attaque. Merci Eric Salio d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Allez, après. Tu prends pas mal la vanne tout à l'heure sur.
Pas du tout. Je penserai à toi demain quand je serai à Monte-Carlo, tu vois.
Tu sais quoi, mon pote? Je penserai à toi quand je serai à Compiègne. Alors, on fait moins de malin.
On va peut-être échanger, finalement, non?
Ok. Le départ de Paris-Roubaix, mission exceptionnelle, les grandes gueules du sport demain à partir de 9h30 avec beaucoup d'invités qui seront avec nous dans le studio RMC juste à côté de la ligne de départ. 11h44, on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Qui a remporté aujourd'hui le précieux sésame? Qui peut véritablement s'exprimer? La réponse dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 de retour dans les grandes gueules du sport à partir de midi, les paris RMC dans quelques minutes. Encore un très beau jeu à vous faire gagner sur RMC. Ça concerne l'Olympique de Marseille. Toujours avec David Douillet, Marc Madiot, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Et tout de suite les GG, c'est à vous de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ont été faites ce matin. Ces propositions, vous les avez eues sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Vous avez pu voter pour votre débat préféré. Il est dernier, malheureusement. David Douillet avec 12% pour son débat sur Ferrari et sur la Formule 1.
Je t'avais dit.
Bravo, David, pour cette proposition.
Je pensais pas que tu aurais été si bas.
Troisième, Christophe Cessieux avec cette histoire. C'est vrai, hallucinant. Sur le TQO de lutte.
Tant pis, vous voulez pas entendre des belles
histoires. Hein. Qui n'a pas pu se rendre à un tournoi de qualification olympique. Il n'a pas voulu s'y rendre car c'était trop dangereux. 18% pour toi.
Si vous voulez connaître le fameux mot de cette histoire, je vous propose d'écouter le podcast du magazine Olympique parce qu'on en a parlé il y a quelques jours. Là, c'est une vraie émission, on parle des sujets un peu.
Deuxième position pour Denis Charvet, 24%. Il était en colère contre la Champions Cup. Tu garderas ta colère pour la pub. 46%. Il a gagné. Il a juste dit Mbappé m'énerve. Et on ne sait pas pourquoi.
Et là, c'est le deuxième coup de gueule de Marc Madiot.
Non, mais
Marc Madiot.
Cet homme n'est qu'un cri.
À toi, Marc.
Un cri.
À toi de convaincre l'Assemblée pourquoi Kylian Mbappé t'énerve.
Je suis triste, déçu. On a un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, un des plus grands champions du moment, si ce n'est le plus grand en termes de football, et ça l'est notamment au niveau français, mais peut-être même au niveau mondial, au niveau du Ballon d'Or. Et je suis triste de l'attitude qu'il peut parfois prendre, ou pendant les matchs, ou après les matchs, dans des moments où il devrait montrer justement qu'il est aussi un homme de collectif. Il est dans un sport co, il est un immense joueur, mais pour être un immense joueur, on a aussi besoin des autres. Et on a besoin de fédérer autour de soi. Et je trouve que l'attitude qu'il a parfois, notamment vis-à-vis de l'entraîneur, ou vis-à-vis de ses coéquipiers, par exemple sur les tirages de pénalty, quand il y avait la fameuse histoire avec les Brésiliens, je trouve ça dommage et que ça ne rend pas service au talent qu'il a et à la personnalité qu'il devrait promouvoir. Voilà un petit peu mon sentiment du moment par rapport à Kylian Mbappé. Je suis un fan du joueur, il est fantastique, il est extraordinaire, mais je trouve qu'il gagnerait encore plus à avoir une attitude un peu différente. Quand il est remplacé, on est remplacé, c'est pas un drame, c'est parce que aussi l'entraîneur protège son joueur pour la suite des autres rencontres qui seront forcément déterminantes pour les résultats du PSG. Et je trouve que ce qu'il montre parfois me déçoit. Voilà.
Tu es déçu par Kylian Mbappé. Est-ce qu'il vous a convaincu, Marc Madiot? C'est à vous de trancher maintenant les GG. Denis Charvet, oui ou non?
Oui et non.
La célèbre non, Denis Charvet. On ne l'avait pas encore eu.
C'est la charvette.
Denis. Je peux vous l'expliquer.
Mais dans quelques instants. David Douillet.
Non, moi j'ai quelques circonstances atténuantes.
Ok, Christophe Cessieux.
Moi je suis plutôt d'accord avec Marc.
plutôt d'accord. Avant d'écouter David, le oui et non.
Non, mais je dis d'abord oui parce que parfois il est insupportable, voilà. Donc, mais en même temps, c'est ce qui fait la grandeur d'un champion. Je suis désolé, ce mec, il fait partie des plus grands sportifs au monde aujourd'hui.
On est tous d'accord.
Tous les grands sportifs sont obligés d'être
Il n'a pas tous les droits. Je mets les circonstances atténuantes. Il en parlait David il y a deux secondes par rapport à la pression que ces mecs subissent, que ces mecs sont pas dans le même monde que nous et que à un moment donné ils ont à gérer leur carrière, ils ont à gérer leur niveau, ils ont à gérer tout. Et je suis admiratif de voir que ce gamin qui a 25 ans arrive à tout gérer. Alors évidemment, après, de temps en temps, il y a des humeurs comme ça. Mais pour reparler du pénalty à les Brésiliens, ça tient pas la route, Marc. Après, l'histoire de Monaco, que Luis Enrique le sort à la mi-temps, je suis désolé, il revient dans son jardin où il a grandi, il est petit, et on le sort à la mi-temps, mais c'est une humiliation terrible. Donc parfois, je comprends sa colère. Parfois, peut-être qu'il devrait être un peu dans son vin, mais quand même, c'est Mbappé, quoi. Voilà. Donc je vais pas dans le sens de je dis non.
Voilà. Bah voilà, il a tranché en réfléchissant pendant que tu parlais et pendant qu'il parlait surtout. Il dit non maintenant. Non, merci Denis. David Douillet.
Bah, moi je trouve que je vais me mettre un petit peu en décalage parce que je ne jette pas la faute aux journalistes, mais quand t'es quelqu'un comme lui, les questions qu'on lui pose ne concernent que lui. Rarement on l'emmène sur des questions qui vont concerner un collectif.
Mais t'as raison,
ça c'est tous les grands champions.
Oui,
oui,
mais on écoute, mais je trouve c'est vrai, c'est un bon angle.
Mais oui. Donc forcément, quand on lui pose les questions qui ne concernent que lui, bah oui, il a tendance à répondre que par rapport à ce qu'il est et pas à généraliser les choses. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce que tu dis, Marc, et ce qui se passe sur le terrain. Moi, je trouve que sur le terrain, c'est un vrai joueur collectif. Et je trouve que sur le terrain, ses coéquipiers sont généreux avec lui et ne lui font pas remarquer qu'il aurait tendance à être égocentrique. Je pense que l'égocentrisme se situe plutôt au niveau des intervieweurs qui se focalisent que sur lui, que sur sa problématique. Forcément, ce qu'il en ressort, tu vois, dans tout ce qu'il peut dire, bah oui, c'est il répond simplement à des questions qui ne concernent que lui. Et ça, donne une espèce d'image que tu décris, Marc, hein, et t'as pas tout à fait tort, mais parce que on lui a pas posé d'autres questions que celle-là.
Oui, mais c'est le poste qui veut ça aussi. Lui, tu sais très bien que il va vers les records, il va vers les trophées, il va être le ballon d'or, il veut tout avoir. Donc il est quand même très égocentré. Tu peux pas enlever le fait que il a quand même des objectifs très personnels qui fait qu'à un moment
donné. Il n'est pas que ça, Denis. Tu sais très bien.
Je dis pas qu'il est que ça, mais c'est un joueur à part par rapport à ça. Il faut le voir comme ça aussi.
Tu tombes dans le panneau. Tu viens de dire. Tu tombes dans le panneau parce que tu te concentres que sur lui. Voilà. Lecture que tu peux avoir au global de tout ce qui est écrit, de tout ce qu'il dit, n'est en fait que le résultat que des questions qu'on lui a posées qui sont très égocentrées.
Christophe Rappel.
Moi, j'ai hâte de voir quel sera son comportement au Real, s'il va bien au Real la saison prochaine, savoir s'il se comporte de la sorte avec son entraîneur, avec son président, avec ses coéquipiers, ou s'il va mettre un peu d'eau dans son vin. Parce que là, évidemment, au Paris Saint-Germain, cette année, il était l'unique star au Real. Ça sera un peu différent pour lui. Et je pense que pour son intérêt, il a quand même intérêt à mettre de l'eau dans son vin. Hein, parce que là, il est en train
Mais qu'est-ce que tu lui reproches?
Je lui reproche son comportement, ses gestes de mauvaise humeur. Quand il est remplacé, il part en tribune parce qu'il ne supporte pas d'être remplacé.
Mais c'est bien, je trouve que c'est bien ces gestes. Tu veux quoi? Tu veux qu'il rigole, qu'il dise c'est parfait, c'est bien, je vais te remplacer.
Tout va bien alors.
Il doit être sobre dans son attitude.
Ah, on parlait du PSG.
C'est pas une serpillière.
Écoutez, on parlait du PSG.
Serpillière parce qu'on le remplace.
L'OM, jump. Beau cadeau à vous faire gagner dans cette émission. Nous vous proposons une très belle expérience RMC Benfica OM. C'est jeudi prochain, jeudi 11 avril à Lisbonne pour le quart de finale aller de la Ligue Europa. On vous offre le vol, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC Sport, votre place pour le match et le maillot officiel de l'OM avec Puma. Vous pouvez vous inscrire maintenant en envoyant OM au 732-16. OM au 732-16. Amusez-vous bien, chers auditeurs, et j'espère que vous serez l'heureux élu. Merci beaucoup les GG d'avoir été avec nous ce matin. Brillante émission avec Marc Madiot, David Douillet, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Merci beaucoup.
C'était un régal.
Merci à vous, chers auditeurs.
Oui, Christophe, beaucoup plus calme qu'à l'habitude.
Tu l'as trouvé calme là ?
Ouais.
Il est très calme.
Il a pris ses cachets ce matin à 8h30.
Oh non.
Il est frais.
J'ai arrêté la caféine.
Demain,
j'ai pris du tramadol.
Demain, nous serons en direct de Compiègne pour le grand départ de Paris-Roubaix. Une émission exceptionnelle. Et vous allez vous régaler. Soyez bien présents au rendez-vous. Demain, Jérôme Pinault sera avec nous. Fred Weiss, Christophe Cessieux, Marie Martineau. Et beaucoup d'invités, notamment Fred Guédon qui doit passer nous voir, qui est dans ton équipe, qui est le dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Le directeur de la course, Thierry Gouvenou. Christian Prudhomme sera aussi peut-être avec nous. Bernard Hinault aussi. Bref, une émission exceptionnelle. Soyez bien présents demain, 9h30 pour les GG du sport. À demain. Et Marc Madiot sera aussi un petit peu là avec nous. Ouais. Voilà, dans la voiture, par téléphone.
Voilà.
Il va faire des réponses de 3 secondes demain.
Oui.
Parce que là, le jour de Paris-Roubaix, il est dans un autre état.
Marc Madiot qui a déjà gagné Paris-Roubaix, évidemment. À demain. Tout de suite, les Paris RMC.